OK, ouverture à Paris sous très haute protection policière du méga procès des trois attentats de janvier 2015. On parle évidemment de Charlie Hebdo, mais on parle également de cet attentat contre des policiers, policières, et aussi évidemment contre ce magasin-là, cachère. On va aller rejoindre notre correspondant, Fabrice de Pierrebourg, qui s'est rendu là-bas. Bonjour, Fabrice.
Salut Bernard.
Raconte, comment ça s'est passé?
Ben, la journée n'est toujours pas terminée au Palais de Justice, il est 18h30 ici. C'est évidemment, c'est une première journée, on va dire, sous haute surveillance, comme vous l'avez dit plus tôt. Je suis à l'extérieur du Palais de Justice, là il est littéralement cerné par des dizaines et des dizaines de véhicules de police et de gendarmerie. Il y a des policiers lourdement armés. À l'intérieur, c'est pareil. Ce matin, je suis arrivé à 7h, l'ouverture c'est à 10h. Les journalistes, comme toutes les personnes qui assistent au procès, mais il n'y a pas de public, on a dû subir trois fouilles assez serrées jusqu'à la salle d'audience principale. Et je dois dire que j'ai eu la chance quand même d'être dans la salle d'audience principale où il n'y a que 20 places de réservées pour les journalistes. 20 wow. places. Wow. Alors qu'il y a une centaine de médias français et étrangers qui sont accrédités, parce qu'il faut aussi être accrédité pour assister à ce procès vraiment hors norme. Pour donner une petite idée, sans trop noyer dans les chiffres, il y a une centaine d'avocats, à la fois de la défense et des parties civiles. Il y a 150 experts, il y a 200 parties civiles. C'est quoi les parties civiles? Ça, c'est une particularité, entre autres, du système judiciaire français. Bah, c'est tous les blessés, les familles des personnes assassinées, les rescapés, des associations même, qui ont le droit d'être témoins au procès et même d'intervenir avec leurs avocats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la poursuite qui est là. Il y a aussi les civils, ont le droit d'intervenir dans le procès, sont partie prenante du procès.
D'accord.
Un procès qui va durer 49 jours et qui est mené vraiment, je dirais, tambour battant. Pour avoir assisté à des procès de terrorisme au Canada, ça se passe pas du tout de la même façon. On a un planning qui peut encore changer, qui s'échelonne jusqu'au début novembre.
Oui.
Toutes les interventions des témoins, des accusés sont planifiées. Et en général, les sentences sont rendues quasiment moins d'une journée après la fin du procès
oui.
par 5 juges. Une justice d'exception, Bernard, l'antiterrorisme en France, parce que il y a eu des attentats dans les années 80, 90, et au fur et à mesure, finalement, les pouvoirs publics et le législateur a adapté la réponse. C'est-à-dire qu'on a, créé une justice spécialisée antiterroriste. Il y a des juges d'instruction spécialisés en terrorisme.
D'accord.
Les procureurs sont spécialisés en terrorisme.
Alors, parle-nous de ce que tu as entendu, là, notamment sur la préparation des attentats, le soin méticuleux qu'ils y ont apporté, l'émotion également que tu as pu observer. Là.
Alors, il faut savoir qu'il y a 14 accusés. Hein, donc, il y en a 13, pardon, il y en a 11 qui sont présents sur place, 10 dans deux box en vide que j'imagine blindés. Sont surmontés d'un grillage hein, pour pas qu'ils aient probablement l'intention de passer au-dessus. De toute façon, ils sont entourés par, je dirais, une bonne vingtaine de policiers en cagoule, tout habillés de noir. Ils ont été menottés pour arriver démenottés ensuite. Il y a un accusé qui, lui, est dans la salle puisqu'il est en liberté. Et autre particularité, il y a trois accusés qui ne sont pas là. Ils sont peut-être réputés morts, mais comme on n'a pas la preuve hors de tout doute de leur décès en Syrie, eh ben, la justice française antiterroriste a décidé de les poursuivre quand même.
Oui.
C'est pas la première fois que ça arrive, puis ça permet que si jamais, ils sont interceptés à l'étranger, ben, ils sont renvoyés en France et immédiatement mis en prison.
Voilà.
Donc, c'est une procédure qui est quand même assez rapide.
D'accord.
Alors, qui sont ces accusés? C'est des gens qui sont soupçonnés, d'avoir fourni une aide logistique à tous les niveaux, à la fois aux frères Kouachi, les auteurs des attentats, de l'attentat à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, mais aussi à Mehdi Coulibaly, qui lui a tué une policière le 8 janvier 2015, et ensuite a fait une prise d'otage meurtrière au supermarché Hyper Cacher dans l'est de Paris, où il y a eu 4 morts. Donc, c'est sûr que le procès va tenter de déterminer qu'est-ce qu'ils savaient. Beaucoup, par exemple, dans le lot, sont suspectés d'avoir aidé à la fourniture d'armes automatiques, lance-roquettes, et j'en passe, véhicules, argent aux trois terroristes. Mais évidemment, certains, dans leur défense, lorsqu'ils étaient interrogés par le juge d'instruction lors de l'enquête, on dit qu'ils ne savaient pas que ça allait servir à un acte terroriste. Pourtant, l'enquête aussi tente à démontrer qu'ils connaissaient les visées radicales à la fois des frères Kouachi et de Coulibaly, donc ils pouvaient bien se douter qu'ils préparaient un coup dans ce genre-là. Donc c'est sûr qu'on pourra toujours dire que c'est pas les principaux responsables, hein, puisqu'ils ont été tués par les policiers lors d'assauts quasiment simultanés le 9 janvier 2015, mais c'est quand même un réseau Et pourquoi on accuse aussi ces gens-là? C'est qu'une autre dernière particularité de la justice française, c'est qu'il y a une accusation, d'ailleurs, qui fait beaucoup envie à certains policiers antiterroristes et le renseignement au Canada. Ça s'appelle une accusation d'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Mmh. Ça permet d'accuser un réseau très large, avec, on va dire, de façon très très large, d'étaler son filet le plus largement possible, sans pour autant être obligé de démontrer l'appartenance à un groupe terroriste constitué. Alors c'est pour ça que c'est une procédure d'exception.
Oui.
Et la plupart de ces gens-là sont poursuivis pour ça, et ils risquent de 20 ans au minimum à la perpétuité pour au moins deux d'entre eux.
Parle-nous des victimes qui sont sur place. Certaines personnes qui sont toujours évidemment avec Charlie Hebdo, qui ont vécu avec beaucoup d'émotion ce qui s'est passé aujourd'hui.
Bah oui, tout à fait. Alors là, la difficulté, Bernard, c'est les masques. Je fais en sorte que, bon, même mes collègues français ont bien de la misère à reconnaître certains témoins. Moi, dans la salle principale où j'étais, j'ai vu l'urgentiste Patrick Peloux, qui est aussi un chroniqueur de Charlie Hebdo, qui était là. Il y avait le directeur de la rédaction et dessinateur Riss. Je dois dire qu'ils avaient eux-mêmes leur propre protection, des policiers en civil d'une unité d'élite qui était là dans la salle, qui était elle-même gardée par d'autres policiers, d'autres gendarmes. C'est-à-dire que le niveau de protection est vraiment assez impressionnant. Il y avait aussi la mère de Charb, Stéphane Charbonnier, qui était le directeur de la publication et dessinateur, qui a été tué par les frères Kouachi. Et elle est sortie cet après-midi, au tout début, quand le président a commencé à lire le rapport d'enquête. Je veux dire, c'est une lecture qui dure près de 4 heures. À un moment donné, ça a été un moment très difficile pour elle, parce que le président s'est trompé dans le prénom de son fils. Et elle s'est levée en disant « c'est Stéphane ». Et non pas, je me souviens plus du nom que le président avait dit. Elle est sortie quasiment en pleurs. Mmh. Et ce qui est assez spécial, c'est que dans la salle, pour soutenir ses victimes, ou ses familles de victimes, il y a des psychologues qui sont là, d'une association d'aide aux victimes d'attentats, qui sont là pour leur porter une assistance quasiment immédiate. Puis j'ai aussi vu Lassana Batili, c'est qui ? C'est un employé de l'hypercachère qui a été considéré vraiment comme un héros, parce que lui, dès le début de la prise d'otage, il a réussi à cacher une quinzaine d'otages dans le sous-sol, dans une chambre froide, à s'échapper, puis ensuite à aller parler aux policiers. Il leur a donné des renseignements vraiment très importants qui ont pu permettre de mener l'assaut ensuite, puis de tuer Mehdi Coulibaly. Donc, c'est un peu ceux que moi j'ai reconnus, mais évidemment, ils sont près de 200. On s'imagine que c'est très émouvant. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres.
Oui.
Il y en a qui n'ont pas souhaité être là aujourd'hui, comme par exemple l'imprimeur, dans l'imprimerie où s'étaient cachés les frères Kouachi, où ils sont morts. Il n'était pas là aujourd'hui apparemment, mais il viendra plus tard. C'est sûr que ça va rappeler des souvenirs vraiment douloureux à tous ces survivants ou à ces familles de victimes, quoi.
Tu vas être là encore demain, Fabrice?
En théorie, oui.
Ben, j'aimerais ça qu'on s'en reparle. J'aimerais ça qu'on se reparle demain, si c'est possible, pour toi, pour que tu nous dises un peu quelle signification ce procès a pour la France. Pour la France et pour la lutte antiterroriste en France. Je pense qu'il y aurait des choses à dire.
Et puis juste pour finir, c'est quand même le premier d'une série de procès. Le plus marquant aura lieu dans quelques mois, c'est celui des attentats de novembre 2015. Il y aura aussi le procès des attentats de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Ah oui.
Mais celui de novembre 2015 s'annonce vraiment colossal. On est même en train de transformer l'ancien palais de justice en salle, parce que il y aura non plus des centaines, mais quasiment des milliers de parties civiles, de journalistes, d'experts, de policiers qui sont là.
Ça, c'est les attentats du Bataclan. Hein?
Entre autres.
Oui.
Mais c'est sûr que ces procès-là, finalement, remémore une époque vraiment sombre en France, les années 2015-2016, avec ces séries d'attentats qui ont lieu aussi en Europe,
d'accord,
au moment où le groupe armé est islamique, vraiment est à son apogée. Quoi.
On en reparle demain, ça te va?
Probablement.
OK. très bien, Fabrice. On te laisse à ta fin de journée. Merci beaucoup.
Salut.
On s'arrête au retour. Toutes ces contestations des amendes là, qui sont décernées pour non-respect des consignes. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas respecter les règles COVID. Ils ont reçu une étiquette. Et puis là, ils sont très, très, très nombreux, très nombreuses à contester ça. On va faire le portrait un petit peu de cette situation. Puis je vais peut-être vous demander ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, vous, qu'on conteste ça? Ou est-ce que vous pensez, là, garde, t'as pas respecté les règles, prends ton trou puis paye ton amende?